Bye.
Bon matin, vous m'entendez? OK, nous, à notre église, ça s'appelle La Chapelle. En passant, c'est inspiré de ici, parce que quand j'étais petit, je venais à cette église, et on disait pas « on va à l'église », on disait « on va à la chapelle ». Il y a juste les frères chrétiens qui disaient ça. Hein? Puis on cherchait un nom pour notre église, puis on trouvait vraiment pas. Puis à un moment donné, je me suis rappelé, quand j'étais petit, on allait à La Chapelle. Et là, j'ai dit à mon équipe créative, « Hey, j'ai une idée. On va appeler notre église La Chapelle. » Ils ont fait « Ouais! » C'est bon! Alors, vous étiez cool 30 ans avant le temps, parce qu'aujourd'hui, La Chapelle, c'est vraiment un nom cool, mais vous autres, ça fait 30 ans que vous allez à La Chapelle, 40 ans ou 70 ans. Vraiment content d'être parmi vous ce matin. Lorsque Adama m'a téléphoné pour m'inviter à prêcher au groupe de jeunes et à l'église, j'ai dit oui tout de suite, sans condition, j'allais être là. Je suis tellement heureux d'être parmi vous ce matin. C'est ma première église. J'étais ici pendant des années, puis j'aime cette église. Mes racines sont ici. Et nous, on a une règle à La Chapelle à Montréal. On ne commence jamais une prédication sans avoir serré la main à 4 ou 5 personnes. Okay? Alors, retournez-vous. Puis, si vous ne connaissez pas les gens autour de vous, dites-leur votre prénom. Salut, je m'appelle un tel. Good. Hey, par curiosité, qui m'a déjà entendu prêcher à main levée? Qui m'a déjà entendu? OK. Qui ne m'a jamais entendu? Et qui ne veut pas m'entendre ce matin? Quelqu'un? Toi? Sortez-le. Ce matin, on va lire un texte dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, mais juste avant, c'est Néhémie chapitre 8, versets 9 et 10, mais juste avant, je veux vous donner un peu le contexte des versets qu'on va lire. En 587 avant Jésus-Christ, Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu et a conquis le royaume de Juda. Il a réduit la ville de Jérusalem à feu et à sang. Ils ont détruit le temple de Dieu et ils ont emmené une partie du peuple de Dieu dans la ville de Babylone, captif pendant 70 années. Après 70 ans, 539 avant Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelle Cyrus qui a conquis l'empire babylonien. Et Cyrus a permis aux Juifs, aux Hébreux de retourner dans leur pays pour rebâtir le temple. On a rebâti le temple, mais 90 ans plus tard, les murailles de la ville étaient encore détruites. Et il y a un homme qui a reçu un appel de Dieu sur sa vie. Il s'appelait Néhémie, de partir à Jérusalem, de Suse, dans l'Empire perse, et aller à Jérusalem pour rebâtir les murailles de la ville et pour rebâtir une bonne partie de la ville qui avait été détruite. Et Néhémie a réussi en 52 jours à rebâtir les murailles de cette ville. Néhémie a réussi un exploit que personne n'avait réussi en 150 ans avant lui. La faveur de Dieu était tellement sur cet homme-là qu'il a réussi cet exploit-là par la grâce de Dieu. Et une fois les murailles rebâties, on a assemblé le peuple de Dieu ensemble pour faire la lecture de la loi de Moïse, pour rappeler au peuple quels étaient les commandements de Dieu. Et alors qu'on fait ce méga rassemblement, les hommes sont là, les femmes sont là, les enfants sont là, on lit la loi de l'Éternel et regardez ce qui se passe. Néhémie, chapitre 8, versets 9 et 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, il est Lévite qui enseignait le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et là, on leur lit la parole et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas marché dans cette parole-là pendant tellement longtemps. Et là, ils sont émus, ils sont repentants. Mais Esdras leur dit, « Allez, mangez des... » Non, laissez, s'il vous plaît. Non, en arrière encore. Oui. Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. » Quand je lisais ce verset-là, parce qu'en fait, le texte hébreu dit, « Mangez des viandes grasses et buvez les breuvages les plus sucrés. » Et quand j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, « Yes, enfin un commandement dans la Bible que j'aurai aucune difficulté à respecter. » manger les viandes grasses, boire les breuvages sucrés. Alors, je me suis dit, la prochaine fois que je vais être en train de me faire cuire un steak sur le barbecue en buvant une canette de Coke et que ma femme me dit, chérie, ça, c'est pas bon pour toi. Moi, je vais lui répondre, chérie, je fais juste observer la parole de Dieu. Je mets en pratique la Bible, tout simplement. On va maintenant relire le verset avec la fin du verset. Regardez ce que ça dit. Esdras leur dit, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyer des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Mon thème ce matin, c'est la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel. La joie est un des sujets importants dans la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde au Nouveau Testament, par exemple, l'Évangile de Luc, au début de l'Évangile de Luc, il y a un verset sur la joie au milieu et à la fin. Lorsqu'on prend le livre des Actes, au début du livre des Actes, il y a un verset sur la joie au milieu et également à la fin. La vie de Jésus est une vie remplie de joie. La vie des premiers croyants, des premiers disciples, des premiers chrétiens est une vie remplie de joie. Alors, combien croient, si la joie est importante dans la vie des premiers chrétiens, si la joie est importante dans la vie de Jésus, à combien plus forte raison la joie doit prendre une grande place dans la vie des croyants aujourd'hui, en 2016? Vous êtes d'accord avec moi? Luc, chapitre 15, verset 10, dit ceci. De même, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Nous, souvent, quand on lit ce verset-là, on le lit mal. On se dit, « Hey, les anges se réjouissent au ciel quand il y a un pécheur qui se repent. » Je crois que c'est vrai, mais c'est pas ça que le verset dit. Le verset dit pas que les anges se réjouissent. Le verset dit qu'il y a de la joie devant les anges. Alors, si au ciel, il y a la joie devant les anges, qui se réjouit? Dieu. Dieu se réjouit. Et les anges se réjouissent, je pense, oui. Mais les anges se réjouissent, premièrement, parce que Dieu se réjouit. Dieu est un Dieu de joie. Et lorsque quelqu'un vient à la repentance, le cœur de Dieu explose de joie. Dans la loi de Moïse, il y avait des ordonnances, il y avait des fêtes, il y avait des célébrations qui avaient été ordonnées par Dieu. Dieu leur avait commandé de se réjouir. Dieu avait dit, il y a des jours que vous allez mettre à part pour faire la fête, pour célébrer. Et c'était tellement important dans la loi mosaïque qu'il y a certaines festivités qui duraient une semaine au complet. Ils devaient prendre une journée de congé avant de célébrer et ils devaient prendre une journée de congé après avoir célébré. Prendre des vacances pour se reposer de leurs vacances parce qu'il y avait trop de joie. Le peuple de Dieu était un peuple de joie et de célébration. Alors que ce soit dans le livre de Néhémie ou dans le livre de Luc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, d'un couvert à l'autre de la Bible, il y a 400 référence à la joie. La joie avait tellement une place importante dans la vie du peuple de Dieu que certains auteurs qui nous disent qu'en hébreu, il y a 23 mots différents pour décrire les différentes nuances de la joie. Il n'y a aucun autre langage sur la terre qui a plus de façons de décrire la joie que le langage hébraïque parce que ça faisait partie de la vie du peuple de Dieu. OK. Psaume 100, verset 1. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Bon, visiblement, vous n'avez pas mis le verset en pratique quand je l'ai lu. Je vais vous donner une autre chance, OK? Est-ce que c'est la parole de Dieu? OK, c'est pas un verset pour certains chrétiens, c'est un verset pour tous les chrétiens, c'est un verset pour les enfants de Dieu. Alors, on va essayer de le mettre en pratique ensemble ce matin, OK? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ah! Vous êtes capable de meilleur que ça, OK? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Dieu est dans la joie et Dieu veut que son peuple exprime la joie. Amen. Mais il y a des chrétiens, leur joie est tellement profonde qu'on ne la trouve plus. Il y a des chrétiens... OK, t'es heureux, mais t'as pas dit à ta face que t'es heureux. t'es sauvé, mais ta face ne sait pas encore que t'es sauvé. Dis-le à ta face que t'es sauvé. Et ma femme me dit ça souvent. T'es-tu content quand je suis frustré? T'es-tu content? Oui, je suis content. Dis-le à ta face que t'es content. Dis-le à ta face que t'es heureux. Parce que des fois, ça paraît pas dans ma face que je suis heureux. Et à une certaine époque, dans l'Église, en général, on avait un peu cette fausse piété, cette fausse spiritualité que plus t'étais austère, plus t'étais misérable, plus tu disais pas un mot, tu souriais pas, plus t'étais spirituel. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait une madame dans l'église, elle disait jamais un mot à personne, elle était toujours habillée en noir, puis j'avais demandé à ma mère un moment donné, mais qu'est-ce qu'elle a cette madame-là, maman? Et ma mère m'avait dit, oh, elle est très proche du Seigneur. Ben ouais. C'est ça être proche du Seigneur! Je veux pas être proche du Seigneur, moi! Dieu veut qu'on soit dans la joie. Jésus n'était pas austère. Si votre vision de Jésus, c'est un Jésus austère, vous vous trompez. Voici la preuve. Les enfants allaient vers Jésus. Et il y a des gens qui essayaient de les empêcher d'aller à Jésus. Est-ce que les enfants vont voir les faces de carême? Les enfants vont vers les gens qui leur sourient. Jésus était l'être le plus heureux qui a jamais vécu sur la terre. C'est lui qui a écrit les béatitudes en passant. Heureux. Heureux ceux qui pleurent. Heureux, heureux, heureux. Jésus est l'être le plus heureux. Notre Dieu n'est pas un Dieu austère. Notre Dieu est un Dieu de joie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus se démarque de tous les faux dieux de l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, lorsque les gens avaient une divinité, c'était toujours austère. C'était toujours misérable. Le Dieu d'Israël est le seul Dieu à se réjouir, à chanter, à danser et à célébrer. Et si Dieu peut exprimer sa joie, pourquoi pas nous? Amen. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, lorsqu'on s'assemble, on chante des chants de joie. On chante des chants de célébration. C'est pour ça qu'on lève les mains. Ben moi, je lève les mains, je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que moi, je lève les mains. Et je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai vécu une expérience qui a marqué ma vision de l'Église, qui a marqué ma façon de penser, de réfléchir l'Église. J'étais un pasteur de jeunes, et il y a une jeune femme qui était arrivée dans notre groupe de jeunes, puis elle a dit, moi, je ne connais pas beaucoup ça, l'Église, mais je ressens que j'ai besoin de Dieu, puis je veux m'approcher de Dieu. Alors, est-ce que je peux venir? Si je dis, bien certain, viens-t'en, t'es la bienvenue avec nous. Elle a dit, j'ai été dans une église, mais je ne veux plus retourner là. Elle dit, pourquoi tu veux faire ça? Elle dit, parce que quand j'allais là, je sortais déprimé. Et moi, je n'ai rien dit, j'ai juste rien dit. Mais il y a quelque chose qui a été semé en moi cette journée-là. Je me suis dit, Seigneur, lorsque quelqu'un qui ne te connaît pas entre dans ton église, il faut que cette personne-là puisse voir la joie. Il faut que cette personne-là puisse sortir encouragé. Notre Dieu est un Dieu de joie. Notre Jésus est un Jésus de joie. Et la joie du Seigneur, ce n'est pas juste un petit sentiment comme ça, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que dit Habacuc, chapitre 3. Car le figuier ne fleurira pas. Point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. C'est bon, vous êtes bénis jusqu'à maintenant par ce verset-là. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Suivant. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est mon Seigneur. Il est ma force. En d'autres mots, quand je perds ma job, je vais me réjouir en Dieu quand même. En d'autres mots, quand je ne sais pas comment je vais payer mes factures à la fin du mois, je vais me réjouir en Dieu quand même. Quand je suis malade, je vais me réjouir en Dieu quand même. Il y a une joie disponible pour le croyant, une joie surnaturelle qui vient, qui est la joie de Dieu répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous permet de transcender n'importe quelle circonstance. La joie du Seigneur transcende les circonstances. Lorsqu'on parle de joie dans la Bible, ce n'est pas ce qui vient en tête, ce n'est pas ce qui vous vient en tête dans la culture populaire, ce n'est pas la même chose. La joie bibliquement et la joie dans la culture populaire, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on parle de joie dans notre monde, on parle d'une émotion temporaire qui dépend des circonstances. Mais lorsque la parole de Dieu parle de joie, on parle d'un état intemporel qui transcende les circonstances. J'aime mieux avoir un compte en banque vide avec la joie du Seigneur, que d'avoir $1 million sans la joie du Seigneur. Il y a des gens qui ont le compte en banque plein, mais ils n'ont pas la joie. Mais il y a des gens qui n'ont rien dans leur compte en banque puis qui ont une joie qui vient du ciel. Tu peux avoir la meilleure job, la job de tes rêves sans la joie du Seigneur, ou tu peux travailler au salaire minimum puis avoir une joie extraordinaire. Tu peux avoir un couple, tu peux être en couple marié avec une personne où ça fonctionne bien et ne pas avoir la joie du Seigneur, ou tu peux être célibataire qui attend depuis longtemps puis avoir la joie du Seigneur dans ton âme. Tu peux être en santé parfaite et ne pas avoir la joie du Seigneur, ou tu peux te battre contre un cancer à chaque jour et avoir la joie de Dieu en toi. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran d'une femme. Elle s'appelle Solette. Elle est décédée il y a quelques mois. C'était une femme de notre assemblée, 42 ans. Moi, j'ai 39. Et elle est partie trop vite. En 3 semaines. Elle ne savait pas qu'elle était malade. Personne ne savait. Elle a appris qu'elle avait un cancer en phase terminale, puis elle est juste partie. Moi, je suis allé la visiter à l'hôpital, parce que c'est ça qu'on fait, les pasteurs. On va visiter les gens à l'hôpital, on va les encourager, on va prier pour eux. Alors, j'avais ma Bible, j'étais préparé. On ne sait jamais trop quoi dire dans ces moments-là. J'étais prêt pour aller encourager Solette. Mais quand je suis arrivé là-bas, je ne l'ai pas encouragée. C'est elle qui m'a encouragé. Parce que, puis elle savait que la fin était proche. C'était la fin. C'était vraiment la fin. Elle était branchée sur respirateur. Chaque bouffée d'air, chaque respire était une torture pour elle. Ça lui faisait mal. Le cancer avait tout envahi ses poumons. Elle était sur le seuil de la mort. Mais elle avait une confiance en Dieu extraordinaire. Elle avait une joie qu'on ne peut même pas exprimer. Elle était dans la joie. Moi, j'étais là, j'étais secoué, j'étais là. Wow, quelle foi extraordinaire. Quelle femme extraordinaire. Mais non! Non, quel Dieu extraordinaire, qui est capable de rendre des gens qui traversent les pires tempêtes, mais de mettre une joie dans leur cœur, puis qui ont un sourire sur leur visage, puis qui sont même capables d'encourager les autres. C'est de cette joie-là que je vous parle. C'est ça la joie de Dieu. C'est ça la joie du Seigneur. J'aimerais dire, la joie du Seigneur va vous permettre de traverser n'importe quelle tempête, n'importe quelle vallée, n'importe quelle souffrance. Puis tu peux, avec la joie du Seigneur, aborder la vie d'une autre manière que les autres personnes. La plupart des gens vivent de résolution de problèmes. Lorsque ça va être réglé, je vais être dans la joie. Mais les gens qui connaissent le Seigneur peuvent se réjouir même à travers les pires tempêtes et les pires situations. La joie du Seigneur transcende les circonstances. Mais également, la joie du Seigneur est une thérapie surnaturelle. La joie de Dieu, c'est une meilleure thérapie que n'importe quoi d'autre. Je ne suis pas contre la thérapie, je trouve que c'est bien. Mais Néhémie avait compris la force thérapeutique de la joie de Dieu. Néhémie avait compris le lien spirituel qui existe entre la joie et la force. Néhémie savait que lorsque ta joie diminue, ta force diminue. Et lorsque ta joie augmente, ta force augmente également. C'est pas qu'on est, quand on est fort qu'on est dans la joie. C'est quand on est dans la joie qu'on est fort. Et ça nous permet de ne pas vivre de résolution de problème, d'attendre que mon problème soit réglé avant d'être heureux. Quand je vais être en santé, je vais être heureux. Non, je peux être heureux maintenant par la puissance de Dieu. Quand je vais être guéri, je vais être heureux. Non, je peux être heureux maintenant. Quand ma famille va être unie, je vais être heureux. Quand mes relations vont être reconduites ensemble, je vais être heureux. Quand mon couple va être bien, je vais être heureux. Non, je peux être heureux maintenant. Maintenant, la joie du Seigneur peut être une force pour moi. Et souvent, on prie au Seigneur, on dit ceci, « Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. » Et ce n'est pas une mauvaise prière. Mais moi, j'ai appris à prier différemment maintenant. Je ne dis plus « Seigneur, donne-moi ta force. » Je dis ceci, « Seigneur, donne-moi ta joie. » Donne-moi ta joie. Parce que je sais que lorsque tu me donnes ta joie, la force vient avec. Et il n'y a personne qui sait mieux ce principe-là que l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes sait qu'il ne peut pas venir nous voler notre force. Il a été vaincu à la croix en Jésus-Christ. Tout est accompli. Les autorités, les pouvoirs ont été dépouillés de leur puissance. Il ne peut pas venir te voler ta force, mais il peut venir te voler ta joie. Et quand il te vole ta joie, il te vole ta force. Puis quand il te vole ta force, il te vole ta victoire. Comprenez-vous comment la joie est importante? Mais ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes, la joie. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Le fruit de l'esprit en nous. Et l'ennemi est bon pour nous voler notre joie. Il y en a, vous vous êtes fait voler votre joie. Vous avez laissé l'ennemi vous voler votre joie. L'ennemi est bon pour nous rappeler les injustices qu'on a vécues, hein? Pour nous rappeler les douleurs qu'on a endurées, les regrets qu'on a accumulés. L'ennemi a plein de tactiques pour nous rappeler comment on a des raisons d'être en colère, des raisons de s'apitoyer, d'être triste ou d'être ingrat. L'ennemi veut nous voler notre joie. Quand il nous vole notre joie, il nous vole notre force. Quand il nous vole notre force, il nous vole notre victoire. Mais Néhémie a dit, la joie du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur, c'est une thérapie. Il y en a, vous avez déjà consommé de la drogue. Et si vous avez connu la joie du Seigneur, vous savez que la joie du Seigneur est une meilleure thérapie que n'importe quelle drogue, que n'importe quelle boisson. La joie du Seigneur est une meilleure thérapie qu'une boîte de chocolat. La joie du Seigneur est une meilleure thérapie que le magasinage. Bon, je sais qu'il n'y a pas aucune femme ici qui considère le magasinage comme une thérapie, mais dans notre église, il y en a quelques-unes. Et je suis convaincu que la joie du Seigneur est une meilleure thérapie que le magasinage. La joie de Dieu, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la faker, on ne peut pas essayer de se motiver à avoir la joie de Dieu. C'est un miracle qui prend place en nous quand on vient rempli de l'Esprit. Quand on dit « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit, remplis-moi de ton Esprit » et Dieu te remplit de joie, de paix, d'amour, de patience, de bonté et de bienveillance. Maintenant, comment cultiver cette joie? Comment cultiver la joie du Seigneur? Trois conseils, trois mises en pratique pour la cultiver dans nos vies. Un, par une révélation de la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai des difficultés avec ce truc-là. Non, mais c'est bon, c'est correct. Comment cultiver la joie de Dieu? Un, par une révélation de la parole de Dieu. Je reviens au livre de Néhémie. On leur a dit, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour prendre des parts et se livra de grandes réjouissances. » Pourquoi ils se réjouissaient? Regardez pourquoi. « Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » J'aimerais dire, lorsque tu lis la parole de Dieu chez toi, juste toi, pas nécessairement juste à l'église avec d'autres personnes, c'est bien ce qu'on fait ce matin, mais lorsque tu lis la parole de Dieu juste pour toi et qu'il y a un verset qui te parle à toi, cette parole-là produit en toi une joie extraordinaire. La semaine passée, je lisais Proverbe 16, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et je me suis dit, « Oui, c'est vrai, Seigneur, mes projets vont réussir parce que je te donne mes projets, je te confie mes projets. Je ne veux pas que ce soit mes projets, je veux que ce soit tes projets. » Et moi, je pars avec cette parole-là de Proverbe 16 et mes projets vont réussir dans le nom de Jésus. Je vais croire ta parole, je vais me soumettre à ta parole. Puis la parole de Dieu, quand tu la reçois par la foi, quand tu la crois de tout ton cœur, elle produit en toi cette joie-là. Elle produit en toi cette joie surnaturelle par l'Esprit de Dieu. La révélation de la parole de Dieu produit la joie. Mais deux, la gratitude. La gratitude produit la joie. Psaume 103, verset 1. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Deux choses dans ce verset-là. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans l'église. Et quand tu grandis dans l'église, il y a plein de faux concepts que tu as. Par rapport à ce verset-là, moi, j'étais comme, « Mon âme bénit l'Éternel. » Je pensais que David, il faisait une déclaration, tu sais. « Mon âme bénit l'Éternel. » J'avais cette vision-là d'un David en collant rose, qui gambade dans les prés, torse nu, qui fait des figures de style, puis qui dit, « Mon âme, sentant les fleurs, bénit l'Éternel. » Et un jour, j'ai relu le verset comme faux, je me suis rendu compte qu'il n'est pas en train de faire une déclaration. Mon âme bénit l'Éternel. Il ne parle pas aux autres. Il parle à qui? Il parle à lui! Pourquoi il parle à lui? Parce qu'il n'a pas le goût de bénir l'Éternel. Il a le goût de s'apitoyer sur lui. Il est dans les difficultés. Il est dans les tourments. Ça fait mal. Il a pas le goût de louer Dieu. Il a pas le goût de bénir Dieu. Mais il avait compris un principe spirituel extrêmement puissant. Il avait compris que quand il a pas le goût de bénir Dieu, puis quand il dit à son âme, « Mon âme, come on, bénis... » C'est ça. Ça, c'est la traduction en québécois, OK? « Mon âme, come on, bénis Dieu, mon âme. » Qu'est-ce que t'as pas le goût, mon âme? Potier, t'as pas le goût à matin. Moi, je me parle comme ça, hein? Potier, t'as pas le goût à matin? Ça te tente pas de bénir Dieu à matin? Ah ouais, Potier, bénis Dieu à matin. Loue Dieu à matin. T'as pas le goût, hein, mais je suis dans souffrance. Je me parle à moi-même. Vous vous parlez à vous-même, vous aussi, hein? Vous le faites. Mais la plupart du temps, quand on se parle, on se dit des choses négatives. Amen. La Bible nous appelle à nous prêcher la parole de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Come on! Commande, Potier, bénis Dieu. Je ne me dis pas, commande, Potier, t'es capable, tu vas y arriver, t'es beau, t'es plus fin. Non, 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 non. Non. Je dis, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David savait que ça, c'était la façon de se relever du tapis, de se relever de la poussière, de louer Dieu, même quand tu n'as pas le goût de louer Dieu, et de n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. On oublie tellement facilement toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites pour nous. Il y en a, vous devriez être morts. Parce que vous avez abusé, vous avez pris des risques, puis Dieu vous a gardé en vie. Il y en a, vous avez vécu un accident, vous avez passé sur le bord de la mort, puis Dieu vous a sauvé. Il y en a, souvenez-vous, ce jour où il n'y avait rien dans votre frigidaire, puis vous ne saviez pas comment vous allez payer vos factures, puis que le Seigneur a pourvu. Rappelez-vous les choses que l'Éternel a fait. C'est ça que David dit. Mon âme, souviens-toi. Souviens-toi de ce que ton Dieu a fait. Et quand on fait ça, ça nous donne la joie de Dieu. Moi, j'ai été en Haïti. Est-ce qu'il y a des frères haïtiens ici? Est-ce qu'il y en a? Oui, madame. Deux, il y en a d'autres? OK, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. OK, en Haïti, c'est comme ça que ça fonctionne, OK? Mais ça dure pendant 15 heures de temps, OK? Avant que le pasteur prêche, puis là, le pasteur, il est là, ils vont-tu me donner le micro, s'il vous plaît? Mais en Haïti, ils ont appris à remercier Dieu. Et moi, quand je suis allé là-bas pour la première fois, j'ai dit, OK, je les entendais toujours, « Béni soit l'Éternel, merci Seigneur, mais vous remerciez le Seigneur, pourquoi? Vous n'avez rien! »
Pour la joie.
Amen. Amen. Pour la joie. Ben, je me dis, « Vous remerciez le Seigneur, pourquoi? Vous n'avez rien! » Puis là, ils sont là, « Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit... » C'est toujours, c'est comme ça. Là, le pasteur, « Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, merci Seigneur, merci Seigneur, merci... » Et puis, ils font quelque chose d'autre en plus. Ils font ça, hein? Hein, comme ça? Alors, c'est comme ça. « Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. » Hey, savez-vous quoi? On va le faire un matin. OK? Il y en a! Ça, c'est le plus proche d'Haïti que tu seras jamais dans toute ta vie, OK? Vous êtes prêts? Faites avec moi, comment? OK. Allez, comme ça. OK, moi, je commence, vous répétez. Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Est-ce qu'on peut dire un vrai merci, Seigneur, puis applaudir le Seigneur ce matin dans l'Église? Come on! Mon âme, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Comment avoir la joie du Seigneur? Par une révélation de la parole de Dieu, par la gratitude et trois, par la louange. Psaume 18. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Non, ils ne font pas cela. Ça, c'est Luc Dumont qui le fait. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. S'il y en a qui le connaissent, je fais une très bonne imitation de Luc Dumont en ce moment. Mais le psalmiste et Luc Dumont avaient compris un principe spirituel extrêmement important. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. L'ennemi veut vous museler. L'ennemi veut vous empêcher de chanter. Et parce que tu as laissé l'ennemi te museler, tu as perdu la joie. Ne laissez pas l'ennemi vous museler. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange amène la joie. Et la plupart des héros de la parole de Dieu avaient compris ce principe-là. Si tu avais demandé à Shadrach, Meshach et Abednego, juste avant qu'on les jette dans la fournaise ardente pour les brûler, « Hey les gars, pourquoi vous chantez? » Il aurait dit, « Mais on ne chante pas parce qu'on s'en va dans la fournaise. On chante parce que Dieu va nous sortir de la fournaise. » Si vous aviez demandé à Daniel, « Daniel, pourquoi tu chantes? On va te jeter aux fauves dans la fosse aux lions. » Daniel aurait dit, « Je chante pas parce que je m'en vais dans la fosse aux lions. Je chante parce que mon Dieu va me sortir de la fosse aux lions. » Si vous aviez demandé à Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison dans Actes chapitre 16, « Hey les gars, pourquoi vous louez? Vous êtes en prison. Hey, vous comprenez pas? On loue pas parce qu'on est en prison. On loue parce qu'on sait que notre Dieu va nous sortir de cette prison-là. » J'aimerais vous dire, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, c'est jamais fini. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est pas pressé, mais il n'est pas en retard. Puis il n'est pas en retard pour toi. Puis si tu as fait des prières à Dieu, Dieu va répondre à tes prières. L'Éternel est bon, compatissant, plein de bonté. Il aime répondre aux prières de ses enfants. Ne perds pas la foi pour les prières que tu as faites monter devant le Seigneur. Il va répondre à tes prières. Le Seigneur répond toujours à la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur répond? Quelqu'un qui croit ça? Moi, je le crois. Je crois que Dieu répond à nos prières. La louange amène la joie. Et je termine avec ceci. J'ai entendu cette histoire d'un pasteur qui avait un petit oiseau à la maison. Puis c'est un petit oiseau chanteur. Il chantait matin, soir, puis il faisait la joie de la maisonnée. Et son épouse, une fois par semaine, faisait le ménage de la cage de l'oiseau. Puis elle prenait l'aspirateur pour faire le vacuum puis ramasser le fond de la cage. Puis à un moment donné, comme elle faisait à chaque semaine, elle a pris l'aspirateur, elle s'est mise à aspirer le fond de la cage. Puis là, elle a échappé quelque chose par terre. Alors elle s'est penchée pour la ramasser, mais en se penchant, elle a incliné le boyau de l'aspirateur comme ça, puis... Foup! Le petit oiseau a rentré dans l'aspirateur. Là, ah! Mon oiseau! Elle arrête l'aspirateur, prend le sac, déchire le sac. Elle trouve l'oiseau, il est encore vivant, mais il était tout gris. Il y avait une couche de poussière sur l'oiseau, puis il y avait juste les yeux qui bougeaient comme ça. Là, elle s'est dit, « Oh Seigneur, merci, mon oiseau est encore vivant. » Elle nettoie l'oiseau comme ça, elle le met dans la cage. Il y a juste un problème. Il n'a plus jamais chanté. Fini! Il était traumatisé. Pour vrai, il était traumatisé. Il ne chantait plus. C'était fini le chantage. Ma question pour vous ce matin, très sérieusement, c'est vous, est-ce que vous chantez encore? Je ne parle pas juste de chanter dimanche matin sur le bout des lèvres. Ma question pour vous, c'est, vous, est-ce que vous chantez encore? Est-ce que votre âme chante encore? Je suis ici pour vous dire ce matin, il y en a, vous avez arrêté de chanter. Il y en a, vous avez passé dans l'aspirateur de la vie, vous avez passé dans les épreuves, dans la poussière, l'ennemi vous a traîné dans la poussière, vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes laissé mentir. Vous vous êtes laissé vous faire raconter des mensonges. Puis vous avez cru des mensonges. Puis je suis ici pour vous dire ce matin, tu vas chanter encore. Tu vas chanter encore. Il y a 3 mois, j'étais à la chapelle et je prêchais ce message-là. J'ai senti l'Esprit de Dieu s'emparer de moi et dire, « Tu vas chanter! » Puis je le criais, « Tu vas chanter encore! » Et je ne le savais pas. Il y avait une dame qui était assise dans l'église pour la première fois. Ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas été dans une église. Elle était suicidaire. Elle était anorexique. On la voyait dans son apparence que c'était une femme anorexique, boulimique, qui avait des grands, grands, grands problèmes. Puis elle rentre, puis elle, c'était une ancienne artiste. Elle chantait. Puis lorsqu'elle est rentrée dans l'église, elle m'a entendu crier, « Tu vas chanter encore! » Mais pour elle, ça a été comme un choc, ça a été comme une révélation. C'était pas juste « Tu vas chanter encore, tu vas encore jouer de la guitare. » Non, c'était « Ta vie va chanter encore. La joie va revenir. La paix va revenir. Tu vas revivre encore. » C'est ça qu'elle entendait, puis c'est ça que je veux vous entendre ce matin. « Tu vas chanter encore. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. J'aimerais dire, il n'y a rien que la vie va te garrocher, qui ne peut pas être surmonté avec la joie de Dieu. Le Seigneur est là dans l'épreuve. Ma femme et moi, on a traversé des épreuves récemment, des épreuves très difficiles. Ça faisait des années qu'on n'avait pas traversé des épreuves comme ça. J'aimerais vous dire, les épreuves font mal. Mais il y a une chose qui est là dans l'épreuve. Il y a quelqu'un qui est là dans fournaise avec vous. Son nom, c'est Jésus. Puis il y a une façon de le goûter, de le toucher, de le sentir, que tu peux juste le sentir comme ça dans l'épreuve. Tu peux même pas le sentir comme ça quand tu n'es pas dans l'épreuve. Le Seigneur est avec toi dans ta fournaise, dans ton épreuve. Et je veux déclarer à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine ce matin, en cette journée, aujourd'hui, je veux dire, tu vas chanter encore. L'Église va chanter encore. Encore, cette église a brûlé, l'ennemi a essayé de brûler cette église. Cette église va triompher par la grâce de Dieu. Cette église va aller de l'avant par la grâce de Dieu. Je le déclare, Michel, je le déclare. Là. Cette église va aller de l'avant par la grâce de Dieu. L'ennemi ne pourra pas vous arrêter. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Dieu est avec nous et son royaume va avancer et l'église va grandir à Trois-Rivières et il va se passer des belles choses dans la ville de Trois-Rivières. Et on va voir des gens venir au Seigneur comme on n'a jamais vu dans la ville de Trois-Rivières. Je veux le déclarer. La semaine dernière, non, il y a un mois, à notre église, on a baptisé 70 personnes en une seule journée. 70 personnes qui ont été baptisées en une journée. Je veux déclarer que Trois-Rivières va voir une vague de la gloire de Dieu, une vague de gens qui vont venir à Dieu, alors que les chrétiens vont se lever, vont marcher dans la joie du Seigneur. Les blessures du passé vont rester dans le passé. Il y a des choses nouvelles. Vous allez avoir un chant nouveau. Je ne sais pas comment vous le dire autrement que vous nous criez par la tête. Je crois que Dieu va faire des grandes choses dans la ville de Trois-Rivières. Est-ce que quelqu'un peut le croire un petit peu avec moi et applaudir le Seigneur? J'avais mis en l'Éternel mon espérance, psaume 40. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Avant de passer dans l'épreuve, tu chantais. Mais quand tu vas sortir de l'épreuve, tu vas avoir un chant nouveau. Tu vas avoir une histoire à raconter. Tu vas avoir un témoignage à donner, un chant nouveau à la louange de notre Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Et si vous avez traversé une saison difficile dans les derniers mois, je compatis avec vous. Ma famille et moi avons traversé une saison difficile. J'ai perdu des amis. Dans les derniers mois, d'une façon que tu ne veux pas perdre des amis. Il y a différentes façons de perdre des amis, mais de cette façon-là, quand tu perds un ami, mais c'est parce qu'il se détourne de Dieu, puis qu'il salit le nom du Seigneur, puis toutes les gens qui le suivaient sont déçus, puis sont blessés. Tu ne veux pas perdre des amis comme ça. Ça, c'est la pire façon, parce que le nom du Seigneur est sali. J'aimerais vous dire, si vous avez traversé une saison difficile, la joie du Seigneur est votre force. Et vous allez chanter encore dans le nom de Jésus. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je vais demander aux musiciens de revenir parce qu'on va chanter maintenant. On ne va pas attendre. On va chanter maintenant. On a lu tantôt le psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Mais on va chanter. Il y a un chant avec ça. Béni Dieu, ô mon âme. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Mon ami, est-ce qu'on peut juste jouer un peu de piano? Je vais prier et ensuite on va chanter. Penchons nos têtes et fermons nos yeux, s'il vous plaît. Et je veux vous inviter ce matin à ouvrir vos cœurs au Seigneur. Que vous soyez ici pour... la 10 000e fois ou la première fois. Le Seigneur veut vous accueillir ce matin. Le Seigneur veut vous donner sa joie. Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos cœurs alors qu'on est en prière, les yeux fermés? Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos cœurs au Seigneur? Maintenant, je voudrais demander à ceux qui sont à l'aise de le faire. Personne n'est obligé, sentez-vous pas mal à l'aise, surtout si vous ne voulez pas le faire, c'est correct. Tout le monde a les yeux fermés, mais si vous êtes à l'aise de le faire, juste en signe d'abandon, Seigneur, juste levez vos mains vers lui pour lui demander de déverser sa joie en vous. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire que lui. On ne peut pas rien créer par nous-mêmes. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie. Seigneur, je te prie maintenant pour ta joie dans chaque cœur qui est ici présentement. Je te prie pour ceux qui se sont fait voler leur joie parce qu'ils ont cru des mensonges de l'ennemi. Je prie maintenant qu'ils soient remplis de ton esprit, que la joie revienne à nouveau. Je prie pour ceux qui traversent des épreuves tellement difficiles qu'ils ont de la difficulté à se réjouir. Je te prie qu'ils ne regardent pas à leurs épreuves présentes, mais qu'ils regardent à la toute-puissance que tu as et à toi et à ta fidélité et que tu vas les sortir de l'épreuve. Je prie, Seigneur, qu'ils ne perdent pas leur champ dans l'épreuve. Je prie pour ceux qui ont été tellement battus par le péché, par les addictions, qu'ils ont complètement perdu leur joie. Je prie qu'ils soient renouvelés dans la compréhension de l'Évangile et de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui traversent maintenant une saison de dépression. Ils ne voient pas comment s'en sortir. Je prie maintenant qu'ils regardent à toi, qu'ils cessent de regarder au problème, qu'ils cessent de regarder à leur souffrance, mais qu'ils puissent prendre le peu de force qu'ils ont pour mettre les yeux de leur cœur sur toi et commencer à louer ton nom. Et même si leur âme n'a pas le goût de louer, je prie qu'ils puissent se mettre à louer et à chanter ton nom parce que toi, tu as une joie surnaturelle que tu veux répandre dans leur cœur par ton esprit ce matin. Je crois que tu veux le faire en nous. Moi, j'ai besoin de ta joie. Si tu as besoin de la joie du Seigneur, oh, lève tes mains vers lui. Lève tes mains. Mes mains sont tendues vers lui. J'ai besoin de ta joie, Seigneur. Remplis-moi de ta joie. Je ne veux pas une joie comme la joie de ce monde. Je veux une joie qui vient transcender mes circonstances. Je veux une joie qui vient transcender mes difficultés. Je veux être rempli de la joie du Seigneur et rien d'autre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu relèves maintenant ton Église. Tu relèves maintenant, Seigneur, les anciens de cette Église, les diacres de cette Église, les leaders de cette Église. Seigneur, tu viens les remplir d'une énergie divine. Tu viens les remplir de ton esprit. Tu viens, Seigneur, les fortifier. Tu viens les encourager, Saint-Esprit, comme personne d'autre que toi peut le faire. Tu viens encourager chaque personne qui s'implique dans le ministère pour enfants, chaque moniteur à l'éducation chrétienne, au ministère pour enfants, chaque leader de jeunesse, chaque personne impliquée dans l'entretien du bâtiment ou à la technique ou à l'accueil. Seigneur, tu viens les rafraîchir et tu viens déverser en eux ta joie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous allons mettre en pratique ta parole. Nous ne laisserons pas l'ennemi nous museler. Nous allons crier « Je m'écris ». Loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, nous allons nous rappeler toutes les raisons qu'on a de louer ton nom. Et comme le psalmiste l'a dit si bien, Seigneur, nous allons bénir ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, chantons-le ensemble, toute l'Église, de tout notre cœur.
jusqu'à la fin du jour, je te chante encore.
Ensemble, bénis Dieu.
Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à ton saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Il chante.
Recevons ta joie, pas une joie qui est comme la joie de ce monde, mais une joie surnaturelle. Seigneur, nous la recevons maintenant et je prie que chaque personne qui a foi en toi sorte de ce lieu dans la joie du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, toute l'Église dit encore une fois, une dernière fois, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur, celui qui nous donne la joie? Amen.